Avoir raison avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur est un philosophe français. Né en 1913 et disparu en 2005, il a laissé en héritage une œuvre foisonnante, échappant à tous les courants de son époque, marxisme ou structuralisme. Volonté, interprétation, texte, histoire, temps et récit, action, métaphore, mal, identité, juste, éthique, utopie et oubli, en quelques 40 livres, Paul Ricoeur semble avoir tout travaillé, tout traversé, dessinant ce qu'il a appelé une sagesse pratique. Difficile ainsi de ne pas avoir raison avec celui qui a su mettre au cœur de sa pensée les questions humanistes et consensuelles de la justice, du pardon ou de l'action. Et pourtant, il demeure difficile d'avoir raison avec lui. Élu philosophe préféré d'Emmanuel Macron, ses idées restent trop peu diffusées et explicitées, son œuvre trop peu résumable et trop peu manipulable. Comment approcher, appréhender et faire bon usage de sa pensée aujourd'hui ? Comment avoir raison avec Paul Ricoeur ?
Si je cessais tout à fait de décider, d'agir, de consentir, je cesserais d'être homme. C'est donc bien le sens de l'être homme qui est en question dans une philosophie de la volonté. Les différences caractérologiques, elles viennent après. Mais il faut, pour les comprendre, d'abord savoir ce que signifie pour nous choisir, décider, mouvoir, consentir.
Bonjour François Doss.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire intellectuelle, professeur à l'université Paris-Est, Créteil et Sciences Po. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut d'histoire du temps présent et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Paul Ricoeur, dont notamment une biographie Paul Ricoeur, Les sens d'une vie, qui est parue aux éditions La Découverte. Comment peut-on synthétiser l'œuvre prolifique et pas toujours accessible de Paul Ricoeur ?
Oui, c'est une œuvre monumentale qui embrasse tout le XXe siècle, puisque Paul Ricoeur est né en 1913. Et donc il va tout de suite être marqué par ce qu'il appelait ce tragique XXe siècle. Il va être marqué existentiellement, puisque il perd son père en 1915, dans la Grande Guerre. Il perd très vite sa mère et il sera orphelin. Très vite. Donc, il y a déjà une marque très grande de cette tragédie du XXe siècle qui va faire de lui quelqu'un, d'ailleurs, qui va sauter une génération, ne va pas avoir un rapport comme ça classique avec ses parents, puisqu'il sera élevé par ses grands-parents, des gens assez, des darbistes un petit peu traditionnalistes, sa tante. Bon, et il va tout de suite noué, me semble-t-il, un rapport existentiel, je dirais encore, là, avec les textes. C'est-à-dire que, comme il disait d'ailleurs, parce qu'il avait beaucoup d'humour, parce que quand on le connaît, c'était quelqu'un qui était absolument délicieux et qui ne se pensait pas comme un monument. C'était un homme de dialogue, c'est une philosophie du dialogue. Il aimait dire à la fin de sa vie qu'il était obsédé textuel. En effet, son rapport au monde, si vous voulez, se jouait pour l'essentiel dans son rapport au texte. Et ça a été le cas, évidemment, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et là, il a en effet marqué une présence. Pour lui, c'était fondamental, cette présence à son siècle, à son temps, au présent. Et donc à toutes les formes d'engagement de l'intellectuel dans son temps. On pourra y revenir. Ce qui le caractérise tout de suite, très vite, et l'extrait est tout à fait pertinent que vous avez passé.
C'était sa première intervention à la radio en 1951.
Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Oui, donc on est au moment où, effectivement, il soutient sa thèse, qui est une thèse sur la volonté. Le volontaire et l'involontaire. Il se pose la question de la volonté. Ses premiers articles portent là-dessus et c'est tout de suite un philosophe de l'acte, un philosophe de l'agir, un philosophe de la capacité, terme qu'il reprendra sur la fin de sa vie. Et je dirais même que si on analyse le parcours, venu d'une famille très très calviniste, protestante, un peu fermée, il est passé de la culpabilité à la capacité. Et c'est ce mouvement d'émancipation, de libération, de liberté personnelle et collective qui le caractérise incontestablement tout au long de son œuvre. Avec, et vous l'avez dit, il a travaillé tous les courants en lui, se synthétise. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un extraordinaire passeur. Grand philosophe français, un des plus grands.
Mais moins connu, par exemple, aujourd'hui que Foucault, que Deleuze, on a l'impression de moins savoir qui est Paul Ricoeur aujourd'hui, hormis parce qu'il est cité par Emmanuel Macron.
Oui, bien sûr, mais Ricoeur aussi, et je vous dirais que c'est une œuvre à venir. C'est-à-dire que on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Je peux vous le dire, non pas seulement parce que j'ai fait une biographie de Ricoeur, mais parce que il, effectivement, vous avez raison, il y a une difficulté à le singulariser parce qu'il s'est nourri tout au long du siècle des grands courants qui ont marqué, disons surtout la deuxième partie du XXe siècle après la Deuxième Guerre mondiale, l'existentialisme, le structuralisme, la philosophie analytique, le linguistic turn, le cognitivisme, il a tout embrassé. Bon, alors, on a du mal à voir comment. Or, il a à la fois embrassé, s'est approprié ces mouvements, mais avec toujours, je dirais, un pas de côté, un pas d'écart. Il voit dans ces mouvements des limites, des apories qu'il pointe à y regarder de maintenant à distance, distance des apories, des limites de l'existentialisme, puis du structuralisme. Il se trouve que, puisque votre émission s'appelle Avoir raison, on ne peut qu'avoir raison avec Ricoeur, parce que il avait raison lorsqu'il...
Ah, parce qu'il embrassait tous les courants sans pour autant non plus s'y noyer.
C'est ça, sans s'y noyer. Et d'ailleurs, là, il y a parfois une confusion qui est faite chez lui, dans la vision qu'on a de lui. Vision justement parce qu'il a tout embrassé œcuménique, c'est-à-dire l'idée qu'il se serait nourri de tout cela et que finalement...
Est-ce qu'il serait pas un peu consensuel?
Pas du tout, il est pas du tout consensuel, tout au contraire. Alors, l'homme est très consensuel et très...
On a l'image d'un homme doux.
Doux, très doux. Mais, pas si doux que ça, si vous, dans sa posture intellectuelle. Le terme qui revient chez lui, c'est le terme riposte. C'est le terme conflit. Vous avez un de ses livres qui s'appelle « Le conflit des interprétations ». Au contraire, il est extrêmement aigu, pointu dans la bataille intellectuelle. Pour justement, par rapport aux gens, aux courants, aux disciplines qui passent les limites. Qui se présente comme une espèce de mathésis universelle, comme le structuralisme se donnait comme une mathésis universelle, au point que l'entraîneur de l'équipe de France de football à l'époque disait qu'il fallait la réorganiser de manière structuraliste. C'est dire que tout le monde était structuraliste, hein, et pas seulement les linguistes et les anthropologues. Et lui, justement, il mène ce débat, et il l'a mené avec Claude Lévi-Strauss, il l'a mené plus tard avec Changeux, à propos du cognitivisme. Et dans ces débats, il est particulièrement percutant. Il dit à Lévi-Strauss, vous êtes un kantien sans sujet transcendantal.
Attendez à autre chose.
Sans sujet transcendantal. Parfois, il cherche le dialogue et il trouve des gens pour lui taper sur la tête. Ça a été avec la psychanalyse, parce que là, il s'est heurté à Lacan. C'est vrai que Lacan n'a pas supporté, alors qu'il attendait du livre qui est paru en 65 de Ricoeur sur Freud, il attendait de ce livre une apologétique du lacanisme. Or, il s'agissait pas de cela, puisque Ricoeur faisait un livre non pas sur Lacan, mais sur Freud. Hein. Et là, donc, il a reçu des coups extrêmement sévères, et de Lacan, et des lacaniens, qui allaient jusqu'à quasiment la diffamation, disant qu'il avait piqué les concepts Lacan, et où il avait été invité au séminaire. Mais sinon, il cherche à convaincre, dans un dialogue où il reconnaît la pertinence des sciences humaines et sociales. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi en tant qu'historien. Pensez par exemple au dialogue qu'il a eu avec un grand structuraliste, qui était le mentor de Roland Barthes, qui était Algirdas Julien Grémas. Eh bien, il y a eu toute une série d'années de dialogues, de colloques où ils dialoguaient, hein, l'un représentant le structuralisme assez dur, hein, Grémas, et puis Ricoeur l'herméneutique, donc une discipline interprétative qui ne se contente pas d'une espèce de logique mathématique. Et il a appelé ça notre combat amoureux. Voilà, vous voyez l'oxymore du combat amoureux, terme d'ailleurs qu'il reprend à Jaspers. C'est-à-dire que il y a toujours chez lui la nécessité de préserver les deux pôles de l'ellipse sans les rabattre l'un sur l'autre. Et ça vous donne d'ailleurs le en même temps. C'est-à-dire que il faut éviter une alternative appauvrissante entre, je sais pas moi, par exemple, dans Temps et Récit, le temps intime et puis le temps cosmologique. Non, il cherche des médiations.
Ou comme dans Soi-même comme un autre, voilà. Soi-même et un autre.
Voilà, à la fois l'idem deux. Ellipsé dans Soi-même comme un autre. Ce qu'il va rechercher, c'est un peu son mouvement que je vois d'un bout à l'autre de son œuvre. Ce n'est pas un dépassement dialectique au sens hegelien du terme, c'est-à-dire qu'il va pas prendre effectivement l'être, le non-être et puis la synthèse des deux. Il ne subsume pas la contradiction, mais par contre, il va chercher des voies d'échappement, je dirais, à des apories, à des contradictions. On peut pas effectivement comment penser en, il faut penser en même temps le temps intime et le temps cosmologique. Et comment le faire?
Bon, eh bien, c'est ça qui en fait un penseur, François Doss, peut-être difficile aussi à identifier. C'est qu'il a essayé de concilier des inconciliables, de tenir dans un équilibre permanent des extrêmes. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de son amour du texte, mais aussi de la présence de l'agir et de l'action dans sa philosophie. Le texte et l'action, ça semble des termes opposés, antinomiques. Non. Est-ce que c'est ça pour lui? Est-ce que c'est ça, Ricoeur, cette fusion en fait des extrêmes?
Non, pour lui, c'est pas antinomique du tout. Et d'ailleurs, vous avez en 86, il publie un certain nombre d'articles qui s'appellent « Du texte à l'action ». C'est-à-dire que ces textes sont portés vers l'action, sont portés vers une amélioration de la communauté humaine, une transformation de notre société. Il n'a jamais donné dans le textualisme au sens, au contraire, tout son positionnement par rapport au structuralisme, comme ça que je l'ai découvert moi en tant qu'historien, c'est qu'il fait une place au référent, à la vérité historique, il fait une place au sujet, et donc à l'action des hommes. Et c'est dans ce sens où par rapport à l'aporie d'un structuralisme qui a valorisé le texte clos sur lui-même et coupé du monde parce que au nom de l'arbitraire du signe qui a été théorisé par Ferdinand de Saussure en 1915, voilà, on a au contraire une philosophie qui tient compte du contenu de ce qu'on dit, du performatif, de ce que ça donne dans la société. Et c'est pour cela que, au contraire, il traverse les périodes, parce que je veux dire, Sartre a connu des périodes où l'existentialisme s'est effondré. Hein, au moment du structuralisme, on n'était pas très sartrien. Ou Althusser, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Althusseriens aujourd'hui. Voilà, qui plongent finalement dans leur époque, parce qu'ils ont pensé à l'extrême et ils ont été justement dans ce dépassement des limites. Ricoeur, comme je vous ai dit, est une œuvre passée, présente et à venir surtout, parce que justement, on pourrait presque prendre la métaphore de la sédimentation. Il sédimente toutes ces périodes. Alors, ces périodes, et même un enrichissement extraordinaire, puisque en lui, vous avez l'affiliation de la philosophie française réflexive, hein, Gabriel Marcel, qui a été son premier enseignement, etc. Bon, son prof, c'était d'Albiès, mais il y avait des rencontres avec Gabriel Marcel, Lavelle, toute cette philosophie française, Lacheneau et autres. La philosophie dite continentale, et ça a été l'introducteur en France de Husserl et de la phénoménologie. Il y en a d'autres, hein, Merleau-Ponty, Lévinas, etc. Bon. Mais Ricoeur, traduisant, vous le savez, sans doute les IDN dans son camp en Poméranie orientale de Hartzwald et Grossborn pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a été prisonnier pendant toute la guerre. Et puis après, comme il enseignera beaucoup à Chicago, il va importer en France la philosophie analytique qu'il va faire connaître et qu'il va faire connaître aussi en tant qu'éditeur, puisqu'il va co-diriger avec François Valle au Seuil la collection L'Ordre philosophique. Donc vous avez là, vous voyez, une ramification comme ça, des trois grands courants philosophiques qui s'incarnent finalement dans dans ce puits de science, de travail, parce que c'était un énorme travailleur, et en plus ouvert au hors. Alors là aussi, c'est extraordinaire chez lui, c'est-à-dire que on pourrait dire, oui, d'accord, mais il est à l'intérieur de la philosophie et du corpus philosophique. Pas du tout. C'est quelqu'un pour lequel le rôle de la philosophie, on y reviendra sans doute tout à l'heure, le rôle de la philosophie est d'interroger le hors philosophique, de se nourrir du hors philosophique. Donc des sciences dures, des sciences humaines et sociales. C'est comme ça que je l'ai trouvé en tant que s'intéressant aux questions de temporalité, d'historicité, de la discipline historique.
À la littérature aussi.
Et la littérature, bien sûr. Et bien sûr, la littérature.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme dimension pratique chez Paul Ricoeur ? François Dos, vous avez cité ce texte de Paul Ricoeur qui s'appelle justement « Du texte à l'action ». Alors, comment passe-t-il de l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'actif ou de l'activité dans le fait d'étudier les textes en eux-mêmes ? C'est une question qu'on peut se poser quand on fait de la philosophie, on travaille des textes, on n'a pas l'impression d'agir, on agit, on lit le texte, on peut le travailler, mais on n'a pas l'impression d'avoir que ça ait des effets pratiques.
Ça a toujours des effets pratiques parce que, effectivement, le texte tel qu'il le conçoit, philosophique, doit éclairer l'agir et nourrir la volonté humaine. Pour lui, dans tous les domaines, hein, et tous les textes qu'il travaille, doivent améliorer le fait de persévérer dans son être, d'accomplir sa puissance d'être. Il y a là, d'ailleurs, comme une tonalité spinozienne chez lui. Depuis le début, il a assez peu, sur la fin, oui, pour des raisons de générosité, là encore, intellectuelle, parce que il avait recruté à Nanterre un des grands spécialistes de Spinoza, mais qui n'avait pas les titres universitaires. En tant que juif, il n'avait pas pu passer l'agrégation. Et c'est pour ça qu'il lui a laissé ce domaine de Spinoza. Mais en arrière-fond, vous avez effectivement le conatus spinozien, qui est justement qui va dans le sens d'aller jusqu'au bout de sa capacité d'agir et d'action dans la société. Et c'est ça qui le motive dès le départ, dès sa philosophie de la volonté, dès sa critique du structuralisme, parce que justement on nie l'acteur et son action, et qu'on nie l'événement, comment réagir à un événement. Vous avez là chez lui une sensibilité aux événements intellectuels, mais aux événements politiques qu'il a traversés. Il était très engagé tout de suite, dès les années 30. Bon, vous savez, bien sûr, il a été le grand philosophe de la revue Esprit, qui naît en 1932, hein, compagnon d'Emmanuel Mounier. Mais même dans les années 30, il avait un engagement très très radical.
C'est moins ce qu'on a en tête de Paul Ricoeur, par exemple. Le terme d'engagement est effectivement associé à un Jean-Paul Sartre, oui. Notamment. Mais c'est vrai que Paul Ricoeur, dans l'imaginaire, et surtout un philosophe qui a énormément écrit, énormément travaillé les textes, mais par exemple, quand il écrit, je cite quelques-uns de ses livres, « Histoire et vérité »,« La métaphore vive »,« Temps et récit », ou « Le juste », ou « Soi-même comme un autre », qui est bien connu, on a du mal à voir l'engagement très clair qu'il y a dans la cité, l'engagement politique ou même la sagesse pratique, pour reprendre un des termes qu'il emploie.
Bah, écoutez, si vous prenez, alors son engagement a évidemment au fil du siècle a évolué en fonction du tragique et puis d'un certain destin funeste de ce qui a été une espérance collective et politique. Mais si vous prenez les années 30, il écrivait entre autres dans une revue qui s'appelle Terre Nouvelle, qui avait en couverture, pour vous donner une idée de l'engagement à l'époque, hein, ses débuts, tout jeune, le planisphère avec deux pays en rouge, la France et l'Union soviétique. Et sur cette couverture, vous aviez la Croix du Christ, c'est une revue chrétienne, car évidemment, il a été d'un bout à l'autre protestant, mais la faucille et le marteau. Hein. Donc, vous voyez, l'engagement radical est... Pour prendre un autre engagement, par exemple, la fédération protestante, il l'a présidée, c'est peu connu, mais de 1958 à 1970. Oui, c'est quasiment un mandat gaullien, hein, 58-70, où il l'a présidé et donc pris là des décisions dans la cité, proprement dit, et des engagements extrêmement fermes. 68, par exemple. 68, il a soutenu le mouvement de 68, ô combien, dès le départ, puisqu'il était parmi les trois grands universitaires nantérois. Hein, il y avait Henri Lefebvre, il y avait Alain Touraine, qui sont allés plaider la cause de Cohn-Bendit à la Sorbonne, où il passait en conseil disciplinaire. Et il écrit dans Le Monde, en juin 68, le fait qu'il faut être révolutionnaire pour faire des réformes. Pour vous dire un peu que on n'est pas dans une pensée molle, on n'est pas dans une pensée du
de la synthèse, du compromis,
du compromis, du tout, du tout. Alors ça, c'est, alors là, c'est certainement un terme, justement, le compromis, la compromission, c'est un terme qui lui va absolument pas, absolument pas. Bon, mais en effet, là où il y a compromis, c'est qu'il y a, alors c'est un titre d'un très bon livre d'ailleurs d'entretien qu'il a fait avec Marc Delaunay et François Azouvi, qui ont donné à juste titre ce titre « La critique et la conviction ». C'est-à-dire qu'effectivement, il faut concilier critique et conviction. Il faut concilier, comme disait Max Weber, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Là, oui, c'est vrai qu'il y a un compromis à faire. Mais on reste avec sa conviction et je dirais qu'il y a chez lui une véhémence ontologique, pour employer un gros mot philosophique, à laquelle il tient fondamentalement. C'est d'ailleurs la critique qu'il fait d'Habermas de l'agir communicationnel. Un agir communicationnel, c'est très important sur l'espace public pour générer et pour la démocratie, mais à condition qu'on ait des choses à défendre.
Quelle idée Paul Ricoeur se faisait du philosophe dans la cité? Quel rôle devait avoir le philosophe dans la cité?
Alors, le rôle du philosophe dans la cité pour Ricoeur, il est très clair. Il est le fait que on utilise au quotidien un certain nombre de concepts, de notions, bon, qui sont des enjeux majeurs. Bon, pour prendre quelque chose que je connais bien, c'est par exemple la question de la distinction et de l'articulation entre, par exemple, l'histoire et la mémoire. Bon, voilà, donc on va parler de mémoire, la mémoire collective, la mémoire individuelle. Est-ce que la mémoire est histoire? Est-ce que l'histoire est la mémoire? Est-ce qu'on peut court-circuiter les deux? Qu'est-ce qui est hiérarchiquement supérieur à l'un et à l'autre? Bon, il y a confusion. Il y a confusion. Et dans certains pays, on vit le trop-plein de mémoire, une espèce de commémorite aiguë, par exemple, bon, où on ressasse hein, le passé. Dans d'autres, il n'y a pas de mémoire.
C'est table rase du
passé. C'est la table rase et c'est l'oubli. Donc, voilà, le rôle du philosophe, et son dernier très grand livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli, en est un bon exemple, c'est d'éclairer les citoyens, et il le dit dès la première page. Hein, c'est-à-dire que ma préoccupation citoyenne, le trop d'oubli ici, le trop de mémoire ailleurs, et donc éclairer les citoyens sur justement les enjeux et donc de redéfinir, de faire là une phénoménologie de la mémoire, une épistémologie de l'histoire, une ontologie de la condition historique pour éclairer les enjeux. Et enjeux concrets. Est-ce qu'on commémore tel point? Est-ce qu'on fait des lois mémorielles ou pas? Est-ce que, voilà, des problèmes concrets qu'on peut se poser au niveau de l'État, au niveau de la citoyenneté.
Ou en tant qu'individu.
En tant qu'individu.
Donc si je lis Paul Ricoeur sur la mémoire.
Vous vivez mieux.
Je vis mieux. Voilà. Et je peux avoir une idée des enjeux et je peux me faire une idée et choisir.
Exactement.
Mon camp, à savoir est-ce que je suis plus pour de la commémoration ou moins.
Oui, enfin, c'est vous pouvez, vous êtes à même de bien voir qu'effectivement, et il le dit très nettement, qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire entre les porteurs de mémoire et les historiens, par exemple, que l'histoire et la mémoire ont des natures différentes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, du côté de la mémoire, la fidélité, du côté de l'histoire, la quête de la vérité. Alors. Après, il faut les articuler. C'est-à-dire que la fidélité sans vérité, la vérité sans fidélité, ça n'a pas de sens. Donc, il y a une articulation à faire. Mais après, un travail kantien chez lui, hein, il se dit bien kantien post-hegélien, de distinction des domaines, de distinction des champs d'analyse, avant de les articuler dans une interprétation.
Vous avez dit, François Doss, que l'un des termes qui peut revenir le plus souvent dans l'œuvre de Paul Ricoeur, c'est « riposte ». Mais s'il soupèse tous les enjeux, s'il est très équilibré, si en fait il est là pour, comment dire, faire la lumière, nous aider à mieux penser et à vivre mieux, est-ce qu'on peut envisager de ne pas être d'accord avec lui? Est-ce qu'on peut être contre Paul Ricoeur et ne pas avoir envie d'avoir raison avec lui?
Pour moi, c'est difficile. Hein. Là, vous me posez une question extrêmement difficile, car je pense que il avait raison sur à peu près tous les terrains qu'il a explorés. Mais effectivement, le champ d'analyse, notre société est en voie d'évolution, et donc il y a des choses sur lesquelles effectivement le travail reste à faire hein, aujourd'hui. Mais je vois pas de points sur lesquels il a, sur le plan de l'exercice, alors là, dans l'acte de pouvoir, je pense par exemple, à, il est bien connu pour être le doyen, vous savez, la poubelle sur la tête, qui n'est pas de 68, hein, il faut toujours le rappeler, c'est 70. Hein,
alors expliquez juste en deux minutes la poubelle sur la tête.
Ce qu'il y a, c'est que à Nanterre, après 68, l'université de Nanterre était une université ingouvernable. Et qui a-t-on été chercher pour la gouverner? Le seul qui était justement en dialogue avec les étudiants qui étaient en phase, comme je le disais, avec le mouvement qui avait eu lieu, c'est-à-dire Paul Ricoeur. Bon. Or, là, il s'est trouvé dans une situation où qui n'était pas gouvernable, puisqu'il cherchait, avec la contestation qui était là présente, à dialoguer. Mais les gens qui venaient dans son bureau de président d'université, c'était pas vraiment pour dialoguer, c'était pour mettre le feu au rideau, monter sur les tables, faire des graffitis partout. Donc voilà, il n'y avait pas de dialogue possible. Et puis les choses se sont ont dégénéré puisque à un moment, effectivement, il descend et puis on lui met comme ça une poubelle sur la tête. Bon, il accuse le coup, il peut pas faire court dans la foulée, ce qu'on comprend. Et puis, il avait des problèmes cardiaques à l'époque. Donc, pendant 15 jours, il a un arrêt, maladie. Quand il revient, son vice-président, qui est René Raymond, qui prendra la succession, qui lui est un homme de pouvoir et d'institution, lui dit « il faut banaliser le campus ». Parce qu'il y a des risques de mort, donc il veut pas assumer des morts sur le campus. Le pouvoir et le ministre de l'Intérieur, Marcellin, n'attendait que ça. Il signe la banalisation. Le lendemain, vous avez 200 CRS sur le campus et une bataille terrible avec plus de 180 blessés, des gardes mobiles qu'on envoie sur le campus pour jouer les casques bleus entre les CRS et les étudiants, parce que les CRS avaient reçu comme ça des chaises toute la journée et s'étaient portés contre les étudiants. Et donc là, il démissionne avec un constat d'échec de sa gestion. Mais je pense que il y a chez lui, là c'est vrai, pour l'avoir connu sur la fin de sa vie, là il y avait des décisions plus ferme à prendre avant, et René Raymond a été meilleur sur ce plan parce que lui, là, est trop à, c'est une qualité sur le plan philosophique, là il est trop à l'écoute. Il était trop à l'écoute et
défaut de ses qualités en fait, il est trop à l'écoute. C'est un très bon philosophe mais un mauvais gouvernant.
Je pense.
Politique qui apparaît très thématiquement, on le dira surtout dans mes derniers écrits, était présent très très concrètement dans ma vie, j'oserais dire dans ma chair. Alors quelquefois j'ai eu des périodes de militantisme comme beaucoup de gens, mais c'est moins important que la préoccupation politique et de la place du politique dans la compréhension de l'action humaine, de la vie humaine.
France Culture. Avoir raison avec Paul Ricoeur, Géraldine Mosna-Savoie.
Bonjour Pierre-Olivier Monteil.
Bonjour.
Alors vous rejoignez François Doz dans notre studio pour cette deuxième partie de notre entretien. Nous avons présenté et parcouru l'œuvre et la personnalité de Paul Ricoeur. Qu'en est-il de son usage et de son actualité, de son œuvre? C'est la question que nous allons maintenant aborder. Pierre-Olivier Monteil, vous êtes chercheur associé au Fonds Ricoeur, enseignant en éthique à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes l'auteur de Macron par Ricoeur, le politique et le philosophique aux éditions Le Mieux et vous avez choisi à noter et présenter le volume 4 des écrits et conférences de Paul Ricoeur au seuil politique, économie et société. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre la voix de Paul Ricoeur, c'était en 1993. On entend tout l'attachement qu'il a, non pas à la politique, mais au politique, dit-il. Quelle différence peut-on faire entre le politique et la politique?
Alors effectivement, je pense que les deux, en l'occurrence, sont simultanément très importants à ses yeux. Avant de répondre précisément à la question, je pense qu'il faut dire tout de suite qu'il considère que le politique, c'est dit quelque part, c'est en tant que les citoyens que nous sommes libres. C'est par le politique que nous avons la capacité de devenir ce que nous pourrons devenir. Le contre-exemple étant que, évidemment, si nous étions en Syrie actuellement, sous les bombes, on aurait un peu de mal à discuter paisiblement autour du micro et entre nous, entre amis. Voilà. Donc, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait réflexion et qu'il y ait discussion, c'est le politique et la politique. Alors maintenant, la nuance entre les deux, qui est plus qu'une nuance, la politique, ce serait l'exercice du pouvoir, la conquête et son exercice. Donc c'est la politique politicienne, etc., qu'on la prenne en bonne ou en mauvaise part. Et le politique, c'est le vivre ensemble. C'est le fait qu'il y a cité, qu'il y a collectivité humaine. Donc comment articuler la politique et le politique, ça fait partie de ces grandes préoccupations, malheureusement qui passent trop souvent inaperçues, dans la mesure où je pense que par prudence intellectuelle, et ayant fait lui-même l'expérience de s'être trompé, et de le savoir que trop bien, il a fait beaucoup d'incursions en permanence, mais toujours dans une forme dispersée. Et on pourrait dire, un des caractéristiques du style de Ricoeur, c'est une pensée fragmentaire. Donc on pense par thématiques qui ne sont jamais jointives. Il n'y aura pas de synthèse. Et tout ça, en fait, en arrière-fond, c'est une problématique qui a à voir avec le politique. Et on pourrait dire, son geste par lequel il manifeste sa réflexion politique pour la première fois, c'est dans un article de la revue Esprit, publié en 57, quelques mois après l'insurrection de Budapest, c'est un cri scandalisé par rapport à la violence politique, et on pourrait dire, philosophiquement pour Ricoeur, c'est la faute à Hegel. Donc c'est la faute à la synthèse dans Histoire et Vérité, que dans ce même bouquin dans lequel a été repris l'article, il appelle les synthèses prématurées, ce qui débouche sur le dogmatisme. Donc l'idée c'est comment faire, comment penser et comment faire en pratique pour ne pas être convaincu, à ce point convaincu de détenir la vérité, que je vais en devenir méchant. Donc l'excès de bien peut obtenir l'exact contraire, à savoir le mal caractérisé, quoi. Et je pense que c'est une de ses grandes préoccupations.
C'est ça le paradoxe politique, voilà. C'est ça qu'il décrit, voilà. Qui est un point central dans son œuvre, qui est le paradoxe politique, c'est qu'à la fois c'est le lieu de la rationalité et en même temps le lieu de la plus grande irrationalité, puisque c'est là où on va produire le mal en étant rationnel.
Voilà. Et en fait, à chaque le paradoxe politique aura trois formulations successives, et donc celle dont on parle là, c'est la première, celle de 57. Ensuite, il reprend dans les années 90, notamment dans Soi-même comme un autre, et ensuite dans La critique et la conviction, donc en 95. Et donc, ce sont des figures qui sont distinctes, qui ne s'annulent pas successivement. En fait, elles se combinent. Bon. Mais sans entrer dans le détail, il faut, à mon avis, observer d'abord que dans les trois cas, à chaque fois, Ricoeur opte pour la figure du paradoxe. C'est-à-dire quelque chose qui doit nous interloquer. Il y a une thèse et une antithèse, a priori elles sont incompatibles, et Ricoeur dit, penser vraiment, c'est avoir l'audace de les penser ensemble.
C'est ça qu'on retrouve dans le voilà. « En même temps » d'Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Alors, tous les deux, vous avez écrit sur les liens entre Emmanuel Macron et Paul Ricoeur. François Doz, c'est même vous qui avez présenté Emmanuel Macron à Paul Ricoeur, vous étiez le professeur d'Emmanuel Macron. Alors l'idée n'est pas, dans cette demi-heure qui vient, de savoir si Emmanuel Macron a bien compris la leçon de Paul Ricoeur et l'applique bien dans sa politique. En revanche, ce qui est intéressant de se demander, c'est comment on peut utiliser politiquement l'œuvre de Paul Ricoeur. Et est-ce qu'elle est vraiment utilisable? Est-ce qu'on peut vraiment la manipuler? Vous avez dit tout à l'heure, François Dosse, que l'œuvre de Paul Ricoeur permettait d'éclairer les enjeux, mais est-ce qu'elle peut permettre, par exemple, de prendre des décisions, d'orienter une politique, de se dire que on va, alors on prenait l'exemple de la mémoire tout à l'heure, de plus commémorer ou de moins commémorer, de traiter les détenus d'une telle manière, d'avoir tel rapport à la violence, avec l'ordre aussi, avec la paix dans la cité ou avec le bonheur des individus. Est-ce que vous pensez que Paul Ricoeur peut être utilisable politiquement?
Utilisable n'est pas,
François Dosse,
n'est pas véritablement le bon terme. On ne peut pas instrumentaliser cette pensée dans une pragmatique du quotidien. Et puis il y a la temporalité de la décision politique et puis la temporalité de la pensée. Je pense qu'il faut différencier les deux. Mais si vous prenez par exemple quelque chose d'absolument fondamental, aujourd'hui comme enjeu politique, qui est l'Europe. Dans ces temps où, justement, un peu sombre, de repli identitaire de pas mal de nations et de sortie de cette Union européenne ou de crise de cette Union européenne, eh bien, là, les derniers textes que publie d'ailleurs Pierre-Olivier Monteil sur l'Europe sont très très éclairants sur l'éthos qu'il demande d'une Europe qui est... justement une forme d'utopie, c'est-à-dire vous disiez instrumentaliser, je vois pas comme ça, mais d'horizon. Il y a un terme tout à fait fondamental chez Ricoeur qui est l'horizon d'attente. L'horizon d'attente qui ne doit pas être abattu sur l'espace d'expérience. Il nous faut un horizon d'espérance, un horizon d'attente. Eh bien, cette utopie, c'est l'utopie européenne à laquelle, justement, sur laquelle travaillait, sur la question de l'hospitalité linguistique, effectivement, Ricoeur. Et là, Emmanuel Macron est bien dans situation de, au plan de ses décisions de président, d'être inspiré. Et alors, moi, je dirais que, pour rebondir sur ce que dit très justement Pierre-Olivier Monteil, pas de synthèse, je dirais pas fragmentaire, je dirais forage chez lui, au sens la métaphore du pétrolier là, qui fore pour aller plus loin, aller toujours plus loin. Et bon, parce que je dirais pas fragmentaire dans la mesure où il se donne des objets d'analyse au fil du temps, où il reprend les restes, justement, de ce qu'il n'a pas pu développer derrière lui.
C'est ça qui fait le fil conducteur de son œuvre.
Voilà,
c'est-à-dire que
vous avez tout un fil
conducteur. Lui-même
je disais,
son œuvre.
La capacité. Et comment il va rebondir de manière apparemment fragmentaire sur l'approfondissement de par exemple, temps et récit, j'ai oublié la mémoire. Bon. Et il se donne la mémoire comme objet. Voilà. Et il y consacre 6 ans, 7 ans de sa vie, son grand volume.
Je dirais,
Pierre-Olivier Monteil.
Oui, dans la diachronicité, donc dans la chronologie, dans la succession des différents bouquins, évidemment, c'est la méthode de repartir des restes, comme il les appelle. Et en fait, c'est aussi une façon de montrer que le système, entre guillemets, qu'il vient d'élaborer, a des exceptions, il accouche d'exceptions. Donc ça, c'est le résultat indirect de toute la démonstration, c'est pour montrer, encore une fois, que le système est pris en défaut. Et donc, c'est à partir de là qu'il rebondit pour la suite.
Tout à fait.
Mais je dirais que on peut observer que parmi les bouquins, et là, dans la synchronicité, il y a beaucoup de recueils publiés chez Ricoeur, par Ricoeur. Il y a quelques ouvrages, mais pas tant que ça, en fait.
Non.
Bon, et en fait...
C'est beaucoup revue. Plus des textes épars, dispersés.
Exactement.
C'est un homme
donc,
de revue.
Et donc, c'est à l'échelle du concept recueil, qu'on voit que les thématiques, bon, dessinent un éventail très large, mais que les articles ne sont pas strictement jointifs. Les problématiques ne sont pas exactement dans la continuité. Elle dessine, elle campe, elle repère un paysage, mais ça n'a pas l'ambition d'occuper
oui,
tout l'espace,
oui,
voilà,
tout
de faire
fait.
Système.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le dernier mot de la mémoire, l'histoire, l'oubli, définit sa philosophie depuis le début. C'est inachèvement. C'est là où je disais que son œuvre est à venir, parce que c'est une œuvre ouverte. C'est une œuvre ouverte et qui nous parle à tous et qui parlera encore demain. Parce que justement, elle n'est pas fermée sur un système. Un système, il est datable, et puis voilà, il a son heure de gloire. Vous savez, les concepts ont une presque comme les individus, ils ont une vie, quoi. Il y a le temps de la maturité du concept, puis de la disparition après du concept. Bon, chez lui, non. Et justement, parce que principiellement, c'est quelque chose d'inachevé qui, je dirais, a par rapport au doute. Alors là, c'est vrai que c'est un problème de perception de comment l'épingler. Il y a une espèce de, chez lui, de méta-stabilisation du doute, finalement, du doute philosophique, de l'interrogation. On doit s'interroger toujours.
Mais néanmoins, il reste quand même des questions à peu près, on va dire, qu'il a clôturées. Par exemple, sur l'identité dans Soi-même comme un autre. Quand il dit, voilà, j'ai traité Soi-même comme un autre autour de quatre questions. Donc, la question qui parle, c'est tout le problème du langage, dit-il. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet parlant? Et puis après cela, qui agit? C'est-à-dire, qui est l'auteur de ses propres actes? Qui est capable d'initiative? Qui est capable d'intervenir dans le monde, dans le cours des choses? Qui raconte sa propre histoire ou celle des autres? Et par conséquent, construit à travers cela son identité narrative? Et après cela encore, la question morale. Qui est responsable? À qui peut-on imputer des actes permis ou défendus? On peut dire qu'il a quand même fait le tour de la question, sachant qu'en plus, en introduction de Soi-même comme un autre, il dit « J'ai dépassé, j'essaye de me frayer une voie, en tout cas entre Nietzsche et Descartes ». Donc on peut dire quand même qu'il a clôturé cette question-là et que ce qu'il dit sur l'identité, c'est vraiment quelque chose, alors qu'on peut peut-être utiliser, pas instrumentaliser aujourd'hui, mais l'idée de qui agit, qui parle, c'est de véritables questions qu'on peut s'approprier.
Alors, je suis absolument d'accord, mais on est bien forcé, cependant, de constater que lui-même a dit « j'avais oublié l'oubli ». Donc, on a les quatre strates successives de la capacité, et donc, avec beaucoup d'humour, donc on le retrouve avec son humour là, encore, il dit « j'avais oublié l'oubli ». Donc, du coup, il a ajouté l'oubli. Et en fait, on a eu un certain temps le soupçon que son dernier ouvrage publié de son vivant, « Parcours de la reconnaissance », aurait été quasiment écrit pour ajouter ces deux strates supplémentaires, à savoir la capacité de se souvenir et la capacité de promettre. Bon, se souvenir par rapport au passé et promettre pour ouvrir vers le futur. Bon, donc on voit que c'est peut-être inachevable, mais je dirais aussi dans un deuxième sens, parce que quand il finit effectivement Inachèvement, qui est probablement l'ouvrage qu'il a écrit en se disant ce serait le dernier, bon, heureusement il y en a encore deux autres, bon, etc., plus tous ceux qu'on n'a pas encore découverts, bon, qui dorment dans les tiroirs, etc., les textes absolument phénoménaux en quantité et en qualité, bon, Inachèvement n'est pas du tout quelque chose qui se dit la mort dans l'âme.
Non.
C'est ma vie a une fin, la finitude, voilà, mais par contre je vous transmets le témoin, quoi.
Alors comment continuer son œuvre? C'est alors ça la voilà. véritable question.
Et si vous voulez, pas plus tard que, c'était il y a 3 semaines, j'assistais au fond et cœur à une soutenance de thèse qui aborde de frontalement un sujet qui est comme un continent qui affleure de temps à autre, qui est très important, mais qui reste encore sous-marin, souterrain. C'est l'imagination. Bon. Et notamment par une doctorante qui a eu accès à un célèbre cours que Ricoeur a prononcé en américain, qu'on essaie de faire traduire en français. C'est très compliqué, en espérant un jour le trouver en français. Mais il se trouve que l'imagination, on se dit, mais voilà une nouvelle capacité. Il faudrait l'ajouter, la capacité d'imaginer, quoi. Donc on voit que c'est sans fin, quoi.
Et alors comment continuer cette œuvre-là? Je repose la question, c'est-à-dire que lui-même proposait de travailler les textes des philosophes pour les continuer, pour continuer à les faire vivre, à les réinterpréter sans cesse et à les travailler, et ce serait une manière d'agir. Comment on peut travailler les textes de Ricoeur, se les approprier et être actif à travers ce travail-là?
Oui, alors justement, ça, c'est une occasion, je trouve, de revenir sur le lien entre le texte et l'action, je trouve. Et donc, avec le fameux recueil du texte à l'action, et c'est d'Herméneutique 2, c'est l'idée que le fait d'entreprendre, de comprendre ce que je suis en train de lire, et va de pair avec le fait de tenter de me comprendre. Donc du coup, je suis impliqué, et avec tout le jeu subtil entre être dans une lecture, je suis un peu hors du monde, mais ce texte néanmoins est du monde, donc on est dedans, dehors, et c'est à ce travail-là qui fait que non seulement on travaille à la compréhension, mais qu'on travaille aussi à la compréhension de soi. Et du coup, le fait de se comprendre différemment, changer, transformer, on parlait de littérature, je pense que les lecteurs de Proust, ils en sortent transformés, on peut presque les reconnaître dans une discussion, donc c'est une lecture qui est un travail sur soi. Et à mon avis, la conséquence concrète, c'est que retravailler du Ricoeur ou en référence ou en dialogue, etc., comme bien sûr d'autres textes, est une façon de se changer soi-même et du coup d'envisager le monde et donc l'action, mon action dans ce monde, avec un regard différent. Quoi.
Mais je vous pose la question à tous les deux, François Doss et Pierre-Olivier Monteil, en quoi la lecture de Paul Ricoeur vous a changé dans votre rapport au monde?
Je peux dire que effectivement, c'est la dédicace d'ailleurs que je lui ai écrit quand je lui ai envoyé, je le connaissais pas, hein, quand j'ai fait ma biographie sans le rencontrer, mais je lui ai envoyé en lui disant qu'il avait accompagné un travail de deuil extrêmement important existentiellement avec le marxisme. C'est-à-dire que là, ça a totalement changé, effectivement, et Pierre-Olivier Monteil a raison. On a une espèce d'altération de soi-même à plonger dans cette œuvre, tant elle a une puissance très forte, et je dirais qu'elle l'a changé
ma pratique et ma manière de voir donc l'histoire, parce que effectivement, en tant que marxiste, j'étais fondamentalement téléologique. Je pensais qu'il y avait un futur qui était déjà inscrit, que le sens agissait à l'insu des acteurs, dans leur dos. Je faisais fonctionner, pensant que c'était très scientifique d'ailleurs, un déterminisme historique assez strict. Ricoeur, au contraire, appelle là sur ce plan à défataliser. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que le travail là est totalement contraire de celui que je faisais. Donc il y a une métamorphose complète dans ma pratique d'historien, dans ma manière de voir la discipline. Et je suis pas le seul. Je veux dire là, je parle en historien, mais je pense que toute la communauté des jeunes historiens aujourd'hui, moi je suis plus jeune, mais et dans ce travail là de défatalisation, de d'indétermination justement, d'attention à l'événement dans sa singularité, c'est des choses très nouvelles par rapport à ce qu'on défendait il y a quelques années. Donc oui, il y a effectivement une nourriture philosophique qui aide à l'action et qui aide à changer notre rapport au monde.
Pierre-Olivier Montaigne, en quoi la lecture de Ricoeur vous a métamorphosé?
Alors,
déjà physiquement.
Usé, c'est-à-dire usé sous le harnais. Alors, ça y est, deux choses rapidement. Une anecdote pour commencer. Il y a très longtemps, dans les années 90, je réfléchissais sur le changement et je me disais, ce serait très intéressant que je creuse l'histoire, que je creuse le sujet avec la métaphore vive. Bon. Et puis, il se trouve, à ce moment-là, j'avais pas du tout l'occasion de faire de la philosophie à plein temps. Donc, j'ai acheté le bouquin, j'ai lu 3 pages, et je me suis dit, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je n'ai pas le temps, on verra.
C'est souvent ce qu'on se dit quand on ouvre un texte de Paul Ricoeur ou quand on écoute certains de ses entretiens.
Voilà. Et donc, je me suis dit, on verra ça plus tard. Et en fait, heureusement, l'occasion s'est enfin présentée que je fasse une thèse de philosophie en bonne et due forme. Et donc, j'ai recreusé mon sujet. Et je me suis aperçu que l'intuition que j'avais à ce moment-là, c'était très exactement ce qu'il racontait, quoi. Donc, on me dit, un phénomène de validation. Enfin, il a mis les mots sur ce que je pressentais intuitivement.
Absolument.
Bon. Alors, il y a ce genre de choses. Et ensuite, un autre exemple, c'est... Moi, j'ai abordé au tout début la question politique par la méthode Sciences Po. Bon. Et qui a aussi, avec une prétention, enfin, historiquement, ça a à voir avec une forme de positivisme, quoi. Bon. Et donc, sans vouloir faire de l'ingrat, mais il peut y avoir une méthode un petit peu trop scientifique, etc., statistique, et après, on se dit, mais au fait, où sont les humains? Où est le sujet? Qui est actif dans tout ça, quoi? Bon. Et effectivement, il faut lire Ricoeur pour s'apercevoir que voilà une pensée qui articule la structure et le sujet, voilà, quoi. Voilà. Et que c'est tout l'enjeu. Alors, quoi.
Là, moi, effectivement, c'est ce que dit Pierre-Olivier Montaigne. Moi, je l'ai vécu aussi parce que, en fait, j'ai rencontré cette pensée de Ricoeur. Étant historien, j'étais quand même très éloigné. Bon, en écrivant l'histoire du structuralisme. En 91-92, je sors deux volumes sur l'histoire du structuralisme, un énorme volume, bon, où j'y consacre pas mal d'années. Et ma position, c'était de dire le structuralisme, c'est quelque chose, hein, cette French theory, l'effervescence, c'était très riche, enfin, Barthes, Foucault, Lacan, donc c'est très riche, et je défendais ce paradigme, mais... Voilà, en historien, je veux dire, il y a des apories, il y a des impasses, ça va pas.
Quelque chose qui manque.
Et puis d'ailleurs, je vois les historiens, le temps permanent, invariant, etc. On va à l'encontre de ce qu'est notre discipline. Bon, et donc je sentais tout ça. Et je termine à peu près mon travail. Ça a été la fin de mon deuxième volume. Je tombe sur 2 textes de Ricoeur, dont Signe et Sens, dans l'Encyclopédia Universalis, et un texte dans le conflit des interprétations. Et comme Pierre-Olivier Montaigne, tout est là. Il a mis de manière très précise, méticuleuse, très courte, là le doigt sur quelque chose de fondamental à penser, et qui se pense dans la conjonction, signe et sens, et non pas signe ou sens. Voilà, et c'est là où je me suis dit, je plonge, hein, dans le grand bain, qui sera effectivement la pensée de Ricoeur. Et j'en suis sorti transformé.
Régénéré.
régénéré et maintenant je sais nager.
Alors il a quelque chose aussi, on a parlé de l'identité, je vous ai cité quelques lignes de Paul Ricoeur sur les questions qu'il a voulu aborder, notamment dans Soi-même comme un autre. Ce qui est intéressant au sein de sa pensée, c'est la manière aussi dont il a voulu articuler effectivement la question subjective, mais aussi la question collective et puis objective. Comment, en fait, on peut cette conjonction entre cette articulation entre l'individu et la cité, le politique et l'individu, le subjectif et l'objectif, peut être non pas utilisé puisque ce terme-là est peut-être un peu péjoratif, mais comment en fait il éclaire autrement la manière dont on peut entrevoir le politique ou la politique. Oui. Et ça, c'est un véritable usage qu'on peut avoir au sein de la cité, individuellement ou dans sa manière, je ne sais pas, de voter ou d'entrevoir les institutions.
Tout à fait. Et ça, la difficulté pratique, c'est que il faut du coup lire Ricoeur dans la continuité. Parce que la philosophie de la volonté, tome 1 et tome 2, c'est vraiment centré sur le sujet et sa volonté. Bon. Et lui-même le dit bien plus tard dans Réflexion en fait, en 95, qu'à ce moment-là, il considère que sa réflexion est relevée du solipsisme. Donc, c'était très important de s'intéresser au sujet, mais il n'y avait pas que le sujet. Et en fait, lui-même, je pense, dans sa biographie, comme on disait tout à l'heure, était relativement solitaire. Bon. Et donc, il n'était pas dans le grand bain de la vie sociale avec des collectifs et des communautés. Pas du tout. Bon. Et donc, je suppose, n'allons pas plus, enfin, ne faisons pas dire des choses qu'il n'a pas dites, mais il me semble que, en tout cas, dans sa réflexion à lui de philosophe, ça n'est que progressivement, de façon très progressive et très patiente et très prudente, méthodique, qu'il passe qu'il est là, en fait, l'événement, c'est le cap, c'est du texte à l'action. Et là, il dit clairement, je m'intéresse à l'action. Et dans Réflexion faite, il dit, agir, c'est plus ample, c'est plus large que vouloir. Donc, il a une stratégie, une méthode, qu'il appelle d'ailleurs le proche en proche. Donc, on voit, et qu'il trouve aussi chez Lévi-Strauss et d'autres. Donc, pour lui, c'est une qualité, là, il passe à pas, step by step, progressivement. Et en fait, il passe comme ça de l'individuel au collectif. Mais, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une vision individualiste. Parce que, il y a un clin d'œil qu'il faut pas manquer d'avoir. C'est dans soi-même comme un autre. Dans la fameuse petite éthique, donc la partie sur la sagesse pratique. Bon. Dans les deux, études précédentes qui ont trait à l'éthique et à la morale, il y a toujours le même rythme. Je, tu, la dimension relationnelle, et puis il, qui est l'ouverture au tiers et à l'institution. Il le fait pour l'éthique, il le fait pour la morale. Et dans la sagesse pratique, il inverse. Il commence par le collectif, puis on arrive au tu, puis on arrive au je. Donc ça veut dire que nous sommes en pratique inclus dans le collectif.
Et on est fait du collectif. Et comment on pourrait définir cette philosophie de l'action ?
Ben, ce serait essayer de... Comme le même type de rapport qu'avec la philosophie, c'est le rapport entre moi et non-moi. Donc, comment est-ce que je me situe par rapport à un contexte donné qui m'a fait autant que j'aimerais le transformer? Et pareil par rapport à une pensée, c'est-à-dire qu'il dit il est impossible de penser à partir de rien, bon, sans présupposer. Donc, nous naissons avec une langue, une culture, etc., des choses qu'on nous a plus ou moins inculquées. Et donc, penser, ça consiste à trouver sa place par rapport à ce donné préalable.
Oui, oui. Et puis, il l'a thématisé sur la fin, en dialectisant le moi, l'individu, le proche et l'institution. Et là, il y a un point tout à fait majeur qui est aussi une pensée forte de l'institution. De l'instituer, et donc elle est là la dimension collective, c'est-à-dire comment effectivement articuler soi-même avec l'institution en passant par le rapport à l'autre, au proche, donc le soi-même comme un autre, mais qui n'est pas une espèce de circularité en miroir. Là où je dirais que là je suis pas tout à fait d'accord avec Pierre-Olivier Montet, je pense que dès le départ il est contre toute forme de solipsisme dès sa thèse, qu'il marque d'ailleurs, y compris chez Husserl, dans ses textes sur Husserl, en disant là, Husserl risquait, jusqu'à ses méditations cartésiennes, de sombrer dans le solipsisme. Tout de suite, c'est l'être avec. Hein, tout de suite, c'est la communauté. Tout de suite, c'est l'engagement collectif. Dès les années 30, je vous le rappelais, c'est tout de suite ça chez lui. Alors, ça prend une forme après, ça se déploie après avec Rawls, Walzer, avec effectivement des références qui sont des références modernes par rapport aux années 50. Mais je pense qu'il y a là chez lui, et pour répondre à votre question sur l'agir et comment, c'est l'articulation, et là c'est éminemment politique, inspiré d'ailleurs pour beaucoup d'Anna Arendt, c'est comment articuler la verticalité et l'horizontalité. Et donc, l'institution verticale, qu'est-ce qui permet de, effectivement, décider dans l'autorité, la reconnaissance de l'autorité politique, mais aussi aller dans le sens d'un renforcement de la démocratie, et donc citoyenne, là, la préoccupation citoyenne, dans le sens d'une logique qui est une logique plus immanente, un plan d'immanence, dirait Deleuze, mais qui va dans le sens de l'horizontalité.
Est-ce qu'on peut entendre par dans cette horizontalité l'idée aussi d'un lien plus puissant entre les individus, quelque chose qui relèverait de l'amour, de l'empathie, de la compassion,
et la justice, bien sûr.
Et là où on retrouvait d'ailleurs cette idée d'éthique, en fait, de Ricoeur.
Bien sûr.
Alors, donc, deux éléments de réponse. Donc là, on est implicitement, en fait, on déploie les premiers paradoxes, deuxième paradoxe politique. Donc, le premier paradoxe, c'est volontaire, involontaire, c'est rationnel, irrationnel. Deuxièmement, c'est l'axe vertical, l'axe horizontal, comment les articuler. Et effectivement, ça appelle le troisième terme, le troisième paradoxe, qui est donc postérieur, sorti en 95, qui est une façon, en fait, d'en appeler à la conscience politique du citoyen. Sommes-nous capables de concevoir que le politique est à la fois ce qui nous englobe, et puis en même temps une activité parmi d'autres? Est-ce qu'on ne risque pas d'en rester comme ça impressionné uniquement par l'anecdote du fait que je suis en train de voter ou de manifester ou de pétitionner, et puis de considérer que voilà la politique, alors que justement ce serait oublier le politique? Et donc il dit nous ne cessons de sortir de la cité, on est tout le temps dedans. Donc le politique n'a pas de fin. Autrement dit, sommes-nous capables d'avoir le discernement? Et donc là il met, je dirais, la pression sur tout lecteur en disant nous sommes et nous seuls les dépositaires, les garants de la démocratie. Donc à nous de garder à vif ce sens du discernement pour ne pas faire de l'activité politique une activité purement technique.
Ou supplémentaire à tout un ensemble d'activités. François Deuss.
D'ailleurs, il a été très inspiré par un modèle qui est le modèle des sociologues qui étaient assez proches de Paul Ricoeur. Laurent Thévenot, Luc Boltanski, je pense à un livre, on n'a pas le temps de développer, mais qui s'appelle La Justification. Et ces sociologues ont montré qu'il y avait une pluralité des individus et des cités.
C'est un terme très important d'ailleurs, pluralité.
Oui. Pluralité des cités d'appartenance. C'est-à-dire qu'ils déploient une cité domestique, une cité marchande, une cité industrielle. Bon. Et puis une cité politique. Et là, effectivement, et ça rejoint ce que dit Pierre-Olivier Monteil, c'est que Ricoeur résiste sur le politique en disant non, le politique, c'est pas une cité parmi d'autres. Hein, il y avait six cités. Hein, qui... Non, c'est tout notre être est politique et toutes les autres cités dépendent du politique. Il y a là un legs du logos grec, hein, effectivement, de la cité grecque du départ, c'est-à-dire
d'Aristote,
d'Aristote,
où la cité doit mener au bonheur.
Et d'abord politique et donc il valorise ce vouloir vivre ensemble, ce combien plus justement de ce vouloir vivre ensemble par rapport au mal, parce qu'on en a peu parlé, mais le tragique, le mal est là, la finitude de l'existence. La mort. Et donc, il y a toute une série d'obstacles à affronter. Mais il y a un combien plus, justement, et on doit miser là-dessus. Et c'est ça qui doit nous aider, si vous voulez, la sagesse pratique, la prudentia, etc. Et ce combien plus est là. Et il ne faut pas désespérer, non pas de Billancourt, mais du politique. Et là, en effet, quelles que soient les déceptions, les désillusions, les désengagements, parce que c'est notre être.
Merci beaucoup à vous deux, c'est déjà fini. Alors merci beaucoup François Deuss. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le philosophe et le président Ricoeur et Macron aux éditions Stock. Évidemment, je l'ai dit en début d'émission, une biographie sur Paul Ricoeur, Les sens d'une vie que l'on peut trouver aux éditions La Découverte, mais aussi Paul Ricoeur, un philosophe dans son siècle aux éditions Armand Collin, et puis tout récemment La saga des intellectuels français 1944-1989. Ce sont deux volumes que l'on peut trouver aux éditions Gallimard. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous Pierre-Olivier Monteil. De vous, on peut lire Macron, par Ricoeur, le politique et le philosophique, c'est aux éditions Le Mieux, mais aussi sur un tout autre sujet, éthique et philosophie du management, ou peut-être pas, que l'on trouve aux éditions RS. Et puis je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous avez choisi, annoté et présenté les écrits et conférences de Paul Ricoeur au Seuil, notamment le volume 4, Politique, Économie et Société. Et un grand merci à Anaïs Isbert, Thomas Beau à la réalisation, à Anthony Thomasson à la prise de son. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en allant sur le site de France Culture à la page de l'émission Avoir raison avec.